Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr. Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un coffret qui a fait événement lors de la fin d'année 2019, un coffret qui s'appelle tout simplement, tout sobrement, Roman porno, une histoire érotique du Japon, hein, qui a pour volonté de présenter à travers 10 chefs-d'œuvre l'âge d'or du cinéma érotique japonais. Alors, le coffret contient plus de 10 heures de suppléments, dont l'excellent documentaire sadistique et masochistique de Hideo Nakata. Il y a des interviews exclusives, on va retrouver par exemple Sonotion par Yves Montmayer. Il y a des films décryptés donc, par des spécialistes comme Stéphane Sarrazin, mais aussi Julien Cévéon, Stéphane Duménildo. Surtout, il y a 10 films. Voilà, il y a 10 films. Vraiment 10 films qui sont excellents. Et le principe du coffret, alors moi j'ai une préférence pour les classiques. Hein, voilà, je vais vous expliquer un peu le principe. Le principe, c'est qu'on prend 5 classiques du roman porno. Alors le roman porno, pour les néophytes, ce n'est pas du cinéma pornographique. C'est le nom donné à un genre de film qui était tourné dans des conditions particulières au Japon durant les années 70. Puis après, ça s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Hein, et produit par la firme Nikatsu. Et donc la firme Nikatsu qui produisait des films à petit budget qui duraient entre 70 et 90 minutes en gros, avec beaucoup d'érotisme à l'intérieur et donc pas de pornographie. Et parmi ces classiques, parce qu'il y a beaucoup de classiques hein, quand même dans le genre, il y en a 5 qui ont été sélectionnés par des réalisateurs aujourd'hui en activité et qui ont fait 5 réinterprétations, on va dire, de ces classiques. Alors dans les films sélectionnés, il y a Lady Karuizawa de Masaru Konuma et donc son assistant d'autrefois, Hideo Nakata, qu'on connaît plus pour la trilogie Ring, hein, enfin en tout cas pour avoir initié Ring, la saga Ring, lui rend hommage avec un film qui s'appelle White Lily. Il y a également Les Amants Mouillés de Tatsumi Kumashiro, qui est repris par Akihiko Shiota, et ça s'appelle là « À l'ombre des jeunes filles humides ». Et il y a aussi « L'extase de la rose noire », qui inspire donc le grand Isao Yukizada, réalisateur de « Chaude gymnopédie ». Enfin, l'ancien assistant réalisateur de Koji Wakamatsu, alias Kazuya, donc Shiraishi, se tourne vers « Nuit féline » à Shinjuku de Noboru Tanaka pour l'aube des félines. Et puis enfin dans les films moi que je trouve le plus intéressant dans les reboots hein, qui ont été produits par la Nikatsu, et bien c'est le film de Sonotion qui s'appelle Anti porno. Son notion réalisateur toujours un peu iconoclaste hein, et qui fait référence à un autre film qui est dans le coffret, donc Red Porno, un film de Toshiharu Ikeda. Voilà. Alors tous ces films, bah, déjà je remercie Victor Lopez hein, de m'avoir envoyé ce joli coffret, ces films, parce que l'objet est très beau, en plus avec des illustrations vraiment très belles, des jaquettes très belles. Alors, on va parler de ce coffret avec un des artisans, hein, un des concepteurs de ce coffret, le critique de cinéma Stéphane Sarrazin, qui est lui-même vit à cheval entre la France et le Japon, et donc on va appeler Stéphane, hein, on va se connecter en direct live, on va aller au Japon, voilà, pour échanger avec lui sur ce coffret, comment il a été constitué, et puis il va nous parler surtout aussi de l'ouvrage qu'il a signé et qui accompagne ce coffret, un ouvrage qui s'appelle Nikatsu Roman Porno, une autre histoire du corps au Japon. Donc Stéphane Sarrazin au micro de Culture Prohibée. Quelle place, justement, tient le roman porno dans l'histoire du cinéma japonais ?
Ben, écoutez, jusqu'au début des années 2000, le roman porno était considéré comme vraiment un cinéma de genre, un cinéma populaire, un petit peu oublié. Et puis, il y a eu des grands critiques japonais qui en ont parlé un peu. Je pense, par exemple, à Shigehiko Hasumi, qui a été un peu la grande signature théorique du Japon, qui a parlé un peu de ce genre. Mais autrement, c'était, je dirais pas oublié, mais voilà, au tournant du siècle, soudainement, dans Tokyo en particulier, on a vu des rétrospectives qui sont apparues, des nouvelles publications, et il y a eu une redécouverte, en tout cas un nouvel intérêt pour le genre, et peu à peu, le genre a repris ou a retrouvé une place, disons qu'on a, on s'est remis à en parler, parce que vous savez, il faut aussi faire une différence entre la façon dont la France pense l'histoire du cinéma et la façon dont le Japon considère l'histoire du cinéma. Et je dirais que, d'une certaine façon, il y a une forme de, pas d'amnésie, mais disons que la cinéphilie ne joue pas le même rôle au Japon.
Et le roman porno, il naît, hein, parce qu'on rappelle, je rappelle pour les auditrices et auditeurs qui seraient néophytes, que le roman porno n'est pas du cinéma pornographique, mais une forme de cinéma érotique et des films à petit budget qui sont inspiré hein, ce qu'on appelait le cinéma pink, hein, et on connaît surtout Koji Wakamatsu en France. Oui. Comment vous expliquez qu'une major, parce que c'est une major la Nikatsu, hein, puisse se dire, écoutez, on est en faillite, on va faire de l'érotisme. C'est étonnant comme choix.
Alors, moi, tout d'abord, je reviens sur le fait que c'était une major. Nikatsu est le plus ancien des grands studios dans l'histoire du cinéma japonais, ça a été le premier. Mais par contre, au tournant des années 70, Nikatsu bat de l'aile, il a des soucis économiques. Les genres de films qu'il produisait, par exemple des films de Yakuza, des films de gangsters, des films qui étaient un peu dans les sous des comédies musicales, des comédies romantiques avec des chansons populaires à travers. Voilà, tout ça battait de l'aile au tournant des années 70. Et Nikatsu avait constaté que le cinéma pinku, avec des budgets vraiment très modestes, rapportait des profits intéressants. Et puis, il voyait surtout qu'il y avait une nouvelle jeunesse dans le Japon qui s'intéressait, enfin qui allait voir ces films. Et donc, le patron de Nikatsu a tenté le pari en disant la seule façon de sauver le studio et de renflouer les caisses, c'est peut-être en se tournant vers le cinéma érotique. Et la décision n'a pas été du goût de tout le monde chez Nikkatsu. Il y a eu des réalisateurs qui ont claqué la porte, qui sont partis. Mais en revanche, voilà, pour le studio, mission accomplie, c'est-à-dire que les conditions de tournage étaient particulières. Mais en revanche, voilà, le studio a pu renflouer les caisses.
Vous disiez les conditions de tournage étaient particulières. On peut peut-être les rappeler. C'était quand même assez difficile, oui, parce que c'était des petits budgets de semaines de tournage.
Exactement. Donc, Nikkatsu, comme tous les grands studios japonais, comme par exemple la Shochiku, qui était le studio de Ozu, ou Toho, qui était le studio de Kurosawa, enfin, tous ces grands studios avaient leur propre réseau de salles. Donc, lorsque leurs films sortaient, ils sortaient dans les salles Nikkatsu, ils sortaient dans les films Toho, etc. Et Nikkatsu organisait, enfin, plutôt concevait des programmes doubles. Et donc, vous alliez dans les salles Nikkatsu et vous pouviez voir soit deux romans de porno, ou un roman de porno, un film de Yakuza, etc. Les conditions de tournage pour les films romans de porno, c'était donc, en effet, deux semaines de tournage. Les réalisateurs avaient relativement pas mal de liberté pour tourner le genre d'histoire qu'ils avaient envie. Il y avait une condition incontournable, c'était que le film devait contenir 8 scènes érotiques. Donc environ une toutes les près de 10 minutes. Les films duraient entre 70 et 80 minutes. Et si les réalisateurs arrivaient à placer une scène environ tous les 10 minutes, ils pouvaient pratiquement raconter ce qu'ils voulaient.
Le titre de l'ouvrage, de votre ouvrage, c'est « Une autre histoire du corps au Japon ». Est-ce que, effectivement, on doit considérer que les Japonais ont un regard différent, ne serait-ce par rapport aux Occidentaux ? Il n'y a pas tout ce rapport au judéo-christianisme dans la représentation du corps ?
Non, pas du tout. Donc il y a, avant l'arrivée du cinéma Pinku, avant l'arrivée du roman porno, il y avait déjà eu, bien des années auparavant, dans le cadre d'un genre pictural qui s'appelait le ukiyo-e. Ukiyo-e, c'est les gravures japonaises. Les Français connaissent bien, à travers le musée Guimet, par exemple, des maîtres de l'ukiyo-e, comme Hokusai ou Utamaro, et encore bien d'autres. Mais à l'intérieur de ce genre de l'ukiyo-e, il y a eu un genre qui s'appelait le shunga, qui était une forme de gravure érotique. Donc cet imaginaire, quelque part, était déjà mis en place. Par contre, dans l'histoire du cinéma, les premières années du cinéma japonais, le cinéma il est très chaste. Encore aujourd'hui, en Asie, l'Asie n'est pas une culture du toucher. On mettra des années avant de voir un premier baiser au cinéma, par exemple. Mais avec les années 60, et puis ensuite les années 70, alors que le cinéma international se met aussi à arriver au Japon, on constate que en Europe notamment, chez les grands auteurs européens, ou encore dans les films, on pensera aux films d'exploitation italiens, ou espagnols, ou allemands, ou même Jean Rollin en France, par exemple, une autre forme d'érotisme. Le Japon n'a pas à naviguer à travers ces questions judéo-chrétiennes. En revanche, la question de la censure et ce qu'on peut montrer ou ne pas montrer est un véritable enjeu au Japon. Et la censure principale durant les grandes années de Nikkatsu, ça a été d'éviter de montrer le bas du corps. Enfin, quand je dis le bas du corps, c'est-à-dire de montrer les sexes masculins, les sexes des femmes. Et donc les censeurs vont insister. Les metteurs en scène, le studio trouvera différentes façons de camoufler tout ça à travers, par exemple, dans un premier temps, ce qui s'appelait le fogging, et puis plus tard, quelque chose qui est un peu l'équivalent d'une mosaïque pour cacher le sexe. Mais dans les premières années, les metteurs en scène vont ruser à travers soit des mouvements de caméra ou en mettant des objets qui vont bloquer, qui vont cacher le moment où les comédiens sont en train de faire l'amour, ou alors où il pourrait y avoir un risque d'un accident, par exemple, et qu'un sexe d'un coup se mette à entrer dans le champ. Et donc, voilà, il y avait toutes ces techniques qui étaient préparées pour éviter tout ça.
Écoutez Culture Prohibée. Le roman porno, ça a aussi été une porte d'entrée pour quelques cinéastes reconnus. Aujourd'hui, je pense par exemple à Kiyoshi Kurosawa. Diriez-vous que c'était une école de cinéma en tant que telle ?
Oui, on en a souvent parlé de cette façon. Il y a eu quelques cinéastes intéressants, importants, voilà, qui sont passés par Nikkatsu, ou qui ont été assistants réalisateurs de grands maîtres du roman porno. Par exemple, Hideo Nakata de la série Ring a été l'assistant réalisateur de Masaru Konuma, par exemple. Donc, pour des cinéastes des années 80, autrefois, les grands studios avaient des concours d'entrée. Et donc, un candidat pouvait postuler, par exemple, à la réalisation. Et s'il était admis, il entrait dans le studio à l'âge de 22 ou 23 ans. Et puis, pendant une dizaine d'années, il allait être l'assistant réalisateur d'un tel ou d'un tel avant de passer à son premier long-métrage. C'était le cas pour Kurosawa, c'était le cas pour plusieurs des grands cinéastes. Mais dans les années 80, ce système-là aussi est en train de s'essouffler. Et pour des jeunes cinéastes, par exemple, comme Kiyoshi Kurosawa, Nikkatsu est une solution rapide, une solution pratique pour réaliser un premier long métrage. On peut aussi signaler le cas d'un autre cinéaste important qui est peut-être un petit peu moins connu en France, bien que je crois que la Cinémathèque lui avait consacré une rétrospective, Shinji Somai, qui est surtout connu pour un film qui s'appelle Typhoon Club. Et Somai est un cinéaste important qui est disparu il y a quelques années, un grand maître du plan séquence Somai. Mais comme Kurosawa, Somai a fait son premier long-métrage chez Nikkatsu dans le cadre du roman porno, un film qui s'appelait Love Hotel.
Dans votre ouvrage, vous écrivez que les quatre premiers maîtres du roman porno sont Noboru Tanaka, connu pour son film La véritable histoire d'Abe Sada, Masaru Konuma, quelqu'un est considéré comme un maître du sadomasochisme au cinéma, avec entre autres Fleurs secrètes, Une femme à sacrifier, Tatsumi Kumashiro, le réalisateur des Amants mouillés, oui. Shusei Sone, qui a signé Journal érotique d'une infirmière. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces quatre auteurs majeurs, selon vous, du roman porno ?
Oui, tout à fait. Ben, dans le cas de Tatsumi Kumashiro, qui était déjà un petit peu plus âgé que les autres, ce cinéaste a vraiment connu le succès alors qu'il était, je crois, déjà âgé au début de la quarantaine. C'est un cinéaste qui avait déjà tourné un ou deux films avant de faire du roman porno, sans que ça marche pour lui. Et Kumashiro, lui, est un cinéaste qui a vraiment traité des classes populaires. C'est un cinéaste qui parlait du peuple, de la classe ouvrière, qui montrait quelque part le sexe soit un moyen de gagner sa vie, ou alors comme un échappatoire à la condition ouvrière de ces personnages. Au contraire, Masaru Konuma a souvent travaillé dans un cadre qui était plus embourgeoisé, en montrant les perversités de cette classe sociale plus élevée. Konuma a travaillé à adapter des récits du grand maître de la littérature sadomasochiste du XXe siècle au Japon, qui s'appelle Dan Oniroku. Et Dan Oniroku a été vraiment celui qui, d'une certaine façon, a popularisé les récits SM dans la littérature populaire japonaise. Et Niketsu en a adapté quelques-uns de ses récits, Konuma peut-être le plus célèbre. Et Konuma, il a amené avec lui, on lui a imposé cette actrice qui est Naomi Tani. Et Naomi Tani a été un moment la muse de cet auteur, Dan Oniroku. Naomi Tani, elle, avait auparavant déjà une carrière dans le milieu de la nuit. Elle se produisait en cabaret. Elle avait déjà une pratique, une expérience de l'art de la corde, du shibari. Et c'est Naomi Tani qui a vraiment... expliquer puis introduit cet univers à Masaru Konuma qui n'y connaissait rien. Tanaka, comme son compère Konuma, les deux étaient d'ailleurs de très bons amis. Tanaka, comme Konuma, lorsqu'il se met à tourner des romans de porno, c'est la première expérience de long métrage. Il avait été longtemps assistant réalisateur et puis avec le roman de porno, c'est l'occasion pour lui, comme pour Konuma d'ailleurs, de passer au long métrage. Tanaka est peut-être le plus intellectuel de ces quatre cinéastes dont nous parlons. Quand il était universitaire, Tanaka avait étudié la littérature française. Il était épris de poésie, également de surréalisme. Et dans ses films, pas dans tous ses films, mais dans certains films, on le voit tenter une rencontre entre... Un travail onirique, des récits qui ont une dimension onirique, et puis la présence de l'érotisme. Ce qui distingue aussi Tanaka par rapport à ses pairs, c'est qu'une fois que le roman porno tirait à sa fin, Tanaka a connu un second souffle intéressant, c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver des projets, à continuer à tourner beaucoup plus longtemps que ses autres cinéastes. Et puis enfin, tu sais Sonnet, qui était lui aussi un petit peu plus âgé que Tanaka et Konuma, était un cinéaste qui avait déjà un passé dans le cinéma, on dira, un petit peu plus populaire, le cinéma d'action, le cinéma de voyou, le cinéma de suspense, et a fusionné ces genres-là avec de l'érotisme. Sonnet est important aussi dans l'histoire parce qu'il a été au cœur d'une cause célèbre dans les années 70, c'est-à-dire que Sonnet a été un des premiers à être véritablement ennuyé par la police lors de tournage, et il a été arrêté. Et plusieurs grands cinéastes du Japon, notamment Nagisa Oshima, ont apporté son soutien à Tuzé Sonnet. Sonnet était aussi un grand formaliste. Je crois que par rapport aux trois autres cinéastes, l'univers de Sonnet est peut-être moins immédiat. Enfin, on aurait peut-être plus de mal à immédiatement cerner les grands thèmes de l'univers de Sonnet, parce que chez Komashiro, Tanaka, Konuma, c'est tout de suite apparent. Mais tu sais, Sonnet a été un grand formaliste qui a influencé plusieurs cinéastes qui ont incarné la deuxième génération, si vous voulez, du roman porno.
願いです。今すぐ帰ってきてほしいんです。私が行けなかったんです。私がバカでした。でももう遅いのでしょうか。許してほしいんです。もしできることなら私を許して。このままでは私は悲しんで痛むこの心、遠い海も誰もいない砂浜へ捨ててしまうほかはないんです。あなたのいない部屋がこんなにも広いもので初めて知りました。あなたがもしこのまま戻っていらっしゃらなかったら、私は苦しみで狂いそうなこの心を窓から捨て去るほかはないんです。
Vous écoutez Stephen Sarrazin, auteur de Nikatsu roman porno, une autre histoire du corps au Japon, livre accompagnant le superbe coffret roman porno édité par Elephant Film. Dans l'ouvrage, vous interviewez aussi longuement Toshio Takasuki, j'espère que je le dis bien, hein, qui est l'auteur d'un ouvrage de référence justement sur Noboru Tanaka. Est-ce que, c'est une question là un peu, parce que j'ai envie de lire ce qu'il a écrit en fait, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un jour une traduction française possible, voire même est-ce que vous pourriez pousser pour que soit édité ce type d'ouvrage ?
Alors là, vous soulevez une question qui est vraiment importante, c'est-à-dire qu'il y a une absence vraiment colossale de traduction de ce qui a été écrit sur le cinéma japonais par des Japonais en France. Il y a très très peu de choses, notamment sur ce genre, bien sûr. À l'époque, lorsque le livre était sorti, j'en avais parlé à des collègues en France, et je crois que à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé. J'espère que le coffret aidera dans ce sens. Le genre était encore considéré comme quelque chose qui appartient à la marge de l'histoire japonaise, alors que moi, je suis convaincu que c'est une étape importante dans l'histoire du cinéma japonais, le roman porno comme... Un certain cinéma produit par le studio Toei nous raconte une autre histoire du Japon, nous montre un autre visage, d'autres aspects du Japon, et qui mérite d'être discuté aussi hors du genre, c'est-à-dire qui mérite une autre approche, et des critiques japonais, des chercheurs japonais, je crois, ont des pistes, des pistes intéressantes à nous livrer. Si on a envie de comprendre ces films-là, sous d'autres axes qui seraient simplement ceux du genre. Ce qu'ils nous disent du Japon, par exemple, est tout à fait passionnant.
Dans votre ouvrage figure aussi un entretien, vous en avez parlé il y a quelques instants, avec la légendaire Naomi Tani, reine du SM, du Shibari. Alors, comment s'est passée cette rencontre ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu plus en détail, en fait ? Parce que c'est vraiment une figure importante dans l'histoire du cinéma porno, mais même de l'érotisme au Japon.
Oh, et puis simplement, je vous dirais, dans l'histoire du cinéma japonais directement. C'est-à-dire que le roman porno, ce qui moi aussi m'intéresse beaucoup, c'est que le cinéma, le roman porno a ramené la figure de la femme et l'actrice au cœur de son cinéma. Dans l'histoire du cinéma japonais, jusqu'à Kurosawa, la majorité des films japonais sont des récits féminins. Les grandes actrices sont au cœur de ces films. Et lorsque Kurosawa apparaît avec Toshirô Mifune, et puis il y a une première transformation, et puis ensuite le cinéma yakuza va suivre, et le cinéma japonais pendant facilement deux décennies est un cinéma qui est profondément orienté sur le masculin. Le roman porno ramène la femme à l'avant-champ. Et Naomi Tani, ben, c'était une jeune femme qui venait du sud du Japon, du Kyushu, qui était tout à fait consciente de son corps, et qui va venir à Tokyo. Et dans un premier temps, on la remarque à travers des petits boulots, soit de vendeuse ou dans la rue. Et peu à peu, elle sera introduite à des photographes. Elle acceptera de poser pour des photos de charme. Et puis, elle passera par la suite à des premiers tournages de Pinku. Elle va en tourner plusieurs avant d'atterrir chez Nikatsu. Dan Oniroku la rencontre, la découvre et elle sera pour lui vraiment l'incarnation de la femme qui va développer un amour de la corde. Pour Oniroku, le corps de Naomi Tani était celui qu'il attendait. Et lorsque Nikatsu va passer au roman porno, ils vont acquérir les droits de roman de Oniroku, et Oniroku va, d'une certaine façon, imposer Naomi Tani auprès du studio. Et donc, Naomi Tani va quitter ce milieu du cinéma indépendant Pinku pour passer dans des conditions qui sont tout de même, il faut le rappeler, des conditions professionnelles. Ce qui distingue le roman porno des Pinku, c'est que le studio Nikatsu avait plus de 70 années d'histoire déjà. C'est un studio avec des plateaux de tournage, avec des costumes, avec des techniciens professionnels. Et même si les conditions de tournage étaient rapides, avec des budgets modestes, ils avaient néanmoins des moyens que même les Pinku indépendants n'avaient pas. Et Naomi Tani, ses films vont être profitables pour Nikatsu. Donc elle va devenir ce que le studio a appelé une de ses reines. Et Naomi Tani va faire le choix d'arrêter de tourner lorsqu'elle est dans la trentaine, afin de, comme elle le disait, afin de laisser la meilleure image de son corps dans la mémoire de son public. Et retournera à Kyushu pour ouvrir un petit bar.
On a parlé il y a quelques instants, elle a été donc, c'était donc une amie de Dan Oniroku. Quel rôle vraiment Dan Oniroku a joué dans cette l'histoire, on va dire, de l'érotisme au Japon et du roman porno, parce que c'est une figure incontournable.
Oui, Dan Oniroku, aujourd'hui ça serait difficile d'imaginer un personnage semblable. Dans les années 60-70, souffle, comme ailleurs dans le monde aussi, un grand vent de liberté et de contre-culture dans le Japon. Le Japon aussi découvre, à travers les grandes traductions, les auteurs maudits français, par exemple, de Sade à Bataille, Maklossowski, Oniroku n'a pas cette même dimension. En revanche, c'est un écrivain qui est intéressé par la transgression, par l'excès. Ce n'est pas une immense plume, dira-t-on, mais c'est quelqu'un qui met en place un nouveau type de récit. des récits sur le sadomasochisme façon japonaise, et puis sur le rôle de la corde, sur le rôle de la punition dans l'érotisme, et deviendra une figure à la fois populaire et puis en même temps une figure de la contre-culture. Donc on parle beaucoup de lui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup moins de gens qui se souviennent de Danno Niroku. Mais ces récits ont été aussi adaptés dans de nombreux mangas autrefois. Et lorsque Mikatsu se lance dans le roman de porno, à cette époque, Oniroku est quelqu'un de toujours important. Et donc Mikatsu va négocier pour avoir les droits de ses films. Et comme je vous le disais il y a un instant, Oniroku va imposer certaines conditions, dont Naomi Tani.
Écoutez Stéphane Sarrazin au micro de Culture Prohibée.
Point d'orgue de votre livre réside dans un entretien fleuve avec Masaru Konuma, qui est tiré de deux rencontres. Oui. Quel souvenir vous gardez de ces échanges avec quand même ce qu'on peut appeler un maître ?
Oui, tout à fait. À l'époque où je l'ai rencontré, ça remonte quand même à quelques années, là, il était pratiquement à la retraite. Hein, il n'avait plus tourné depuis, je crois, 2002, autour de là. Et un homme qui habitait pas très loin d'ailleurs du studio Nikatsu, modeste dans la façon dont il vivait, et puis terriblement généreux, disponible, quelqu'un qui avait vraiment aimé le cinéma et a eu une passion pour des grandes actrices, par exemple, comme Gloria Graham, qu'on connaît surtout des films de Fritz Lang, ou Nicolas Frey, en particulier. Mais Konuma était très clair par rapport au fait que, quand il a commencé à faire du roman porno, c'était tout d'abord pour tourner un long-métrage. Le cinéma érotique, il n'y connaissait rien. L'art de la corde de Shibari, il n'y connaissait rien. C'est Naomi Tani qui lui a fait découvrir ça. C'est Naomi Tani qui a amené des spécialistes de cet univers à l'intérieur du studio Nikatsu. Et Konuma a appris sur le terrain. En revanche, Konuma a été un de ces virtuoses de ce que j'évoquais tout à l'heure, là, autour de la question de comment ruser, comment bloquer des séquences plus charnelles interdites par la censure au Japon, et puis en même temps comment filmer Naomi Tani, comment oser aller dans cette direction. Donc Naomi Tani a été, je crois, la complice indispensable. Le cinéma Konuma ne serait pas ce qu'il est sans l'apport de Tani Naomi, qui l'a encouragé d'une certaine façon à oser, à tenter certaines séquences. Mais lors de cet entretien, Konuma était volubile, il avait envie de raconter cette histoire, et d'ailleurs ça s'est fait en deux rencontres, parce qu'il y avait tant de choses à dire. c'est ces cinéastes de Kumashiro Tanaka, Konuma, voyaient ce qui se passait du côté de la nouvelle vague japonaise. Ils voyaient, ils regardaient Oshima, ils regardaient Imamura, Yoshida, et savaient qu'ils allaient être exclus de ce, voilà, de ce milieu-là, que leurs films allaient probablement, du moins à cette époque, que ces films-là ne sortiraient pas du Japon, qu'on ne parlerait jamais d'eux, pensaient-ils, comme on parlait des grands cinéastes de la nouvelle vague japonaise. Et ça a été, voilà, une certaine façon, très gratifiant pour eux lorsque, ben voilà, lorsque l'Europe a commencé à présenter des cycles de films Nikatsu Roman Porno dans certains festivals, et puis ensuite dans des salles d'arrêt d'essai. Ça s'est fait très lentement, mais peu à peu, une forme de reconnaissance semblait se mettre en place. Et ça, Konuma était très touché par ce fait.
En exergue de ce double entretien, vous citez Konuma, justement, et ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure dans ce qui vous passionne dans le roman porno. Konuma qui a donc dit « Le roman porno, c'est l'imagination qui trouve son point d'origine dans la figure de la femme. » Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, la particularité du roman porno... Alors, il y a des femmes fortes, hein, mais c'est surtout un genre, est-ce qu'on pourrait dire, oui, presque féministe, quelque part?
Ah oui, tout à fait. Moi, au tournant du siècle, au tournant du 21e siècle, lorsqu'il y a eu ce renouveau d'intérêt pour le roman porno ici au Japon, il y a eu des historiens, des critiques qui se sont penchés là-dessus. Mais le roman porno trouvait un nouveau public durant ces années-là, qui était largement un public féminin, qui allait en parler autrement. Et ça nourrit quelques vocations, c'est-à-dire que depuis, par exemple, il y a certaines réalisatrices qui ont commencé à tourner du roman porno, il n'y en a plus, mais d'avoir envie de tourner des pinkus, par exemple, et des pinkus qui sont des pinkus plus féministes, par exemple. Et chacun de ces grands cinéastes dont nous avons parlé ont eu des collaborations très fortes, pardon, avec des actrices précises. Et cette figure de la femme incarnait, par exemple, chez Kumashiro, cette dimension sociopolitique. Chez Konuma, il y avait, voilà, cette notion comme ça de perversité, de bourgeoisie. Chez Tanaka, il y avait quelque chose de plus éthéré, de plus onirique. Et on peut continuer comme ça. Chacun a réussi. Sur quelques années, pas sur tout l'ensemble de leur œuvre, mais il y a eu un moment où il y a eu un partenariat, une rencontre importante entre une actrice et le metteur en scène.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial roman porno. Conclure un peu cet entretien, mais c'est pas une question simple, mais je voulais savoir quel était votre avis sur le choix des films qui sont dans le coffret, qui sont en fait, il y a 5 classiques d'un côté et puis 5 relectures contemporaines, on va dire.
Oui, alors ça c'était un petit peu le concept qui nous a aidé à concevoir ce coffret, c'est-à-dire que Il y a des années, j'avais une collaboration avec les Cahiers du cinéma, à l'époque où Jean-Michel Frodon était encore le directeur de la revue. Et sur le site, je menais une chronique sur le cinéma japonais, dans laquelle j'avais commencé à parler du roman de porno. Et puis, un petit peu plus tard, je rencontre Victor Lopez et nous commençons une collaboration avec le site istegia.fr. Et puis ensuite, il y aura l'éditeur des BD, Éléphant Film. En 2016, il y a 4 ans, Nikatsu célébrait le 45e anniversaire du roman porno et avait demandé à 5 cinéastes contemporains de tourner un roman porno dans les mêmes conditions que les classiques des années 70. C'est-à-dire d'avoir un tournage qui faisait à peine 2 semaines avec un budget dérisoire. La grande différence étant qu'aujourd'hui, ou du moins à cette époque, tout était tourné en numérique, pas en pellicule. Mais les autres conditions, c'est-à-dire d'avoir une séquence érotique, une scène érotique tous les 10 minutes, boucler le film en 2 semaines, voilà, tout ça a été respecté. Et je me suis entretenu avec ces 5 cinéastes contemporains et je leur ai demandé quel était votre cinéaste de roman porno préféré. À partir de là, le concept s'est mis en place, c'est-à-dire de demander à chacun de ces cinéastes de citer un grand classique. Et puis ensuite, on en a parlé avec la société Nikatsu, qui a été plutôt emballée par la proposition. Et ensuite, avec Victor Lopez, nous nous sommes mis au travail. Et les résultats, c'est ce qu'on ferait. Hideo Nakata, par exemple, avait été l'assistant de Masaru Konuma. Et son film, White Lily, est un hommage direct au premier roman porno qui est inédit en France, je crois, premier roman porno de Masaru Konuma. Les autres cinéastes ont fait des clins d'œil, des clins d'œil à Kumashiro, des clins d'œil à Tanaka. Nikatsu nous a contacté aussi, Victor et moi, pour nous dire tout le bien qu'il pensait du coffret. Donc on a fait cet objet pour aussi parler du roman de porno autrement. Et d'essayer de lui retrouver, ou de lui redonner plutôt, de lui redonner sa place dans cette grande histoire du cinéma japonais. Et Nikatsu a été d'une collaboration indispensable, et ils ont été heureux du résultat. Et pour nous, c'est un pari, pari gagné, si vous voulez.
Found love tonight when I looked into your eyes. Every time that you kissed me, I got butterflies, and I knew there would be no one, only you bring me joy.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.